toute cette magnificence, vous savez, tout cet or, ces motifs, rien que d'y penser. Rien que d'y penser, vous savez quoi?
Quoi donc?
Je me sens toute humide.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, hello. I hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure tout vous.
Hey, boys! Come save me!
You're gonna be fine.
Say it again.
Une heure tout vous.
We're gonna be fine.
Don't go away, Tom.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Le plus beau des festivals, comme dit la pub, le plus couru aussi, 11 500 spectateurs, pour la plupart jeunes, connectés, passionnés. Nous sommes à Annecy, à ce grand rendez-vous de l'animation, 42e édition. Bonjour Annecy! Bonjour à tous les autres et salut Laurent.
Bonjour Christine, bonjour Annecy, bienvenue à toutes et à tous.
Le Festival international de l'animation, oui, international, à entendre partout dans les salles, les files d'attente, ces langues du monde entier. Bonjour Marcel Jean.
Bonjour.
Délégué artistique d'Annecy et depuis ce matin, docteur honoris causa, un titre qui salue votre carrière et votre engagement sans faille dans l'animation, ça mérite des applaudissements.
Bravo, bravo. Merci.
Alors, docteur, nous ferons un petit bilan de santé ce matin. L'animation, dit-il, est faite de choses simples qui vont s'accumuler, des choses simples qui créent des merveilles, comme La jeune fille sans main. Bonjour Sébastien Lodenbach.
Bonjour.
En plus d'un nouveau court-métrage, Vibrato, vous réalisez ici une performance pendant le concert de Dominique A, une grande première. À vos côtés, de l'autre côté, un autre auteur et réalisateur d'un court présenté ici à Annecy, La mort, père et fils. Bonjour Denis Valgenwitz.
Bonjour.
Et pour encadrer le tout, un spécialiste notamment de l'animation pour adultes, bienvenue Marc Aguès.
Bonjour.
Bref, un gros et beau générique, c'est parti. Salle vivante, vibrante, bon enfant, 6 jours de festivités à Annecy, compétitions longs et courts, conférences, séances, événements, work in progress, marché, plus hommage à l'animation brésilienne qui fête ses 100 ans. C'est bien, c'est très bien tout ça Marcel Jean, mais quoi de neuf sous le soleil de l'animation depuis l'an dernier?
Depuis l'an dernier, on peut dire une progression assez remarquable du niveau de qualité et quantitativement aussi de longs métrages un peu partout dans le monde. On a vu cette année donc nous arriver des films tout à fait exceptionnels, de sorte qu'on pourrait dire que le niveau de la compétition n'a jamais été aussi élevé que cette année à Annecy.
Et pourtant c'est plus cher à produire les longs.
Et pourtant c'est plus cher à produire, mais il y a de plus en plus de pays qui participent à la danse, je dirais. Des coproductions comme en Amérique latine, ce virus tropical tourné entre l'Équateur et la Colombie, cette maison du loup entre le Chili, le Pérou, l'Argentine, l'Espagne. Bref, c'est un grand exemple de coopération qu'on voit dans la production.
Peut-être petite question qui fâche, sur les 10 longs métrages en compétition cette année, la moitié ont déjà été présentés dans les festivals généralistes. La Berlinale, la Mostra, la Quinzaine à Cannes ou Toronto. Comment se fait-il que vous fassiez doubler par ces festivals-là?
Je ne vois pas ça dans ces termes-là tout à fait. L'existence d'un festival lié à un ensemble de techniques est toujours un peu problématique dans la mesure où ça pourrait devenir ghettoisant. Pour moi, que l'animation ne soit pas dans un ghetto, que l'animation se retrouve et suscite de l'intérêt dans les festivals généralistes, c'est plutôt une excellente nouvelle.
Sébastien Lodenbach, vous, votre film « La jeune fille sans main » a été présenté à l'Acide à Cannes. C'était une plateforme incroyable.
Ah, c'était formidable. C'est un film à tout petit budget, réalisé avec une équipe extrêmement réduite. Et c'est vrai que de pouvoir bénéficier d'une visibilité comme celle de Cannes, c'était formidable. J'ai eu tout de suite beaucoup de retours dans la presse, notamment.
Donc, ça veut dire que l'an prochain, on aura peut-être des films avant les grands festivals ou pas?
Il y en a toujours, il y en a tout plein. Funan a été projeté ici en première mondiale. Bon, Dilili à Paris de Michel Oslo, qui n'était pas en compétition, mais qui était notre film d'ouverture. C'est aussi une première mondiale. Donc, Annecy reprend, oui, des longs métrages d'autres festivals, mais le ratio de première est quand même assez bon.
Funan, c'est le seul film français de la compétition.
Oui, c'est une question de cycle, à mon sens, dans la mesure où, quand on regarde l'état de la production, il y a énormément de films qui sont en chantier actuellement. Je pense, par exemple, à ce projet de Jérémy Clapin, produit chez Xylam, qui sera probablement chez nous en 2019. On a eu des work in progress français en quantité cette année. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de s'inquiéter, mais plutôt de constater la manière dont le cycle de production, c'est un peu comme la mer. Hein, t'as la vague qui vient et le ressac et ça revient.
On n'imagine pas à Cannes, par exemple, Michael Haneke présentant devant un public en délire les premières images de son nouveau film avec les personnages et les
oui,
l'histoire.
C'est une image un peu bizarre.
Annecy, bien, ça se passe comme ça. Et c'est un peu votre spécificité. Marcel Jean, ici, certains films, certains spectateurs, vous m'avez dit, sont arrivés à 4 heures du matin ce jeudi-là pour une séance à 10h30 pour regarder les premières images de Dragon Suite. C'est votre grande force, ça, ici.
C'est effectivement notre grande force, c'est-à-dire de révéler au monde les éléments de ces films qui feront l'actualité cinématographique dans les prochains mois. Il y a eu Dragon, il y a eu Le Monde de Ralph 2.0, et chaque année, donc comme ça, les major studios débarquent avec des surprises. Et Dragon, c'est une franchise qui a une telle réputation. Bon, on a eu 4 jeunes Allemandes qui sont parties sans réservation, descendues jusqu'à Annecy sans avoir aucune garantie de pouvoir entrer dans la salle. Bon, il y a toutes sortes d'histoires comme ça qui se rendent jusqu'à nous.
C'est pareil pour Un jeune fils en main. Je suis sûr qu'il y a des gens qui attendent à
4h du matin. Se sont pressés comme des fous.
Ils déchiraient leur chemise.
C'est ça, c'était... ils se coupaient les mains.
Ils sont plus à neige à Cannes.
Derrière nous, à Dragon's Roy, il y avait 4 jeunes filles complètement inconditionnel et passionné.
C'est au-delà de toutes nos espérances. C'est
incroyable. Les images, elles sont incroyables. La netteté, la qualité.
L'animation est vraiment incroyable. Franchement, tout le monde va vraiment...
On aurait dit du vrai.
Même les personnages, ça a encore plus augmenté la qualité. Enfin, c'est un truc de ouf. La matière, tout est absolument parfait. C'est absolument... Des plans séquences, mais c'est ahurissant.
L'histoire, elle a l'air encore plus développée que tous les autres films. Ça a l'air d'avoir plein de secrets encore.
Je crois qu'on peut pas, on pouvait pas rêver mieux en fait, on pouvait pas espérer mieux.
Ouais, on pouvait pas espérer mieux.
Et ça valait le coup, hein.
Ah oui,
ça valait le coup de venir, de payer et tout.
Ça va être horrible d'attendre 2019.
C'est horrible.
On a un fandom en or, donc on va tous se soutenir.
On a attendu 4 ans, je pense qu'on peut attendre 8 derniers mois, donc je pense que c'est possible.
Oh mes dieux, il est donc pas unique.
C'est un dragon femelle.
Marcel Jean, Dean Delbois, le réalisateur, a fait toute sa présentation en anglais. Votre public est incroyable, évidemment. Il est jeune, il est connecté et effectivement, il parle anglais.
Il parle anglais, absolument. Dean Delbois, cela dit, a parlé français en début de présentation, parce que c'est un Canadien, du Québec même.
Bravo.
Ce qui ne m'étonne guère à ce moment-là que ce soit aussi formidable, comme le disent vos jeunes fans. Mais Dean Delbois, oui, comme souvent, les présentations venant des majors sont en anglais, donc qui devient la langue, si on veut, passe-partout pour les spectateurs d'un peu partout dans le monde.
Marc Haguet, c'est la langue qu'on pratique dans l'animation maintenant, l'anglais, majoritairement.
Oui, majoritairement, oui.
Et dans les écoles aussi.
Dans les écoles, il y a même une classe internationale au Gobelin maintenant, où ça parle anglais. Et puis nous, au studio où je travaille, on réfléchit, alors que c'est en France, ça peut peut-être le faire en anglais maintenant.
Ah bon ?
Parce qu'on a un diffuseur qui est international. Pour l'instant, on le fait en français. Mais oui, mais après, heureusement, il y a des traducteurs dans toutes les séances à Annecy pour traduire en direct. Voilà.
Denis Valganwitz, vous parlez anglais ?
Oui, je suis obligé.
Et par exemple, vous avez été assistant sur des films comme, par exemple, Le Congrès de Harry Folman. C'était indispensable.
Oui, parce que j'ai passé pour ça 9 mois en Pologne, en connecté avec des partenaires aux Philippines ou en Inde ou en Ukraine, avec aussi un lien donc avec Tel Aviv, avec le studio de Tel Aviv. Donc effectivement, ça permettait effectivement de pouvoir garder une cohésion, d'avoir les mêmes termes, de pouvoir collaborer à distance avec une efficacité, une simplicité, oui.
On va saluer maintenant Marcel Jean, notre docteur honoris causa, le premier de notre émission, qui va devoir s'en aller. Merci beaucoup, Marcel Jean.
Merci. Merci.
À l'opposé du spectre, d'un côté, donc, ce Dragon's Tree où 300 personnes ont collaboré au générique. De l'autre côté, il y a un seul homme au pinceau, Sébastien Lodenbach, auteur donc notamment de La jeune fille sans main, un film écrit avec des dessins conçus au fil du pinceau, méthode empirique et solitaire. Vous dites, l'animation, c'est d'abord fait de choses simples.
Oui, pour moi, c'est fait de choses simples. J'étais assez étonné là d'entendre, enfin étonné, non, pas tant que ça, parce que je sais que ce genre de réaction existe aussi dans l'animation, sur la netteté des images, sur la perfection. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche.
Ça semble vrai.
Mais c'est pas grave. Enfin voilà, on peut quoi ?
Comme il disait, ça semble vrai.
Ça semble vrai. C'est, alors moi, je ne cherche pas du tout à ce que ça semble vrai. Au contraire, je préfère m'éloigner le plus possible de la représentation du réel pour peut-être essayer de saisir ce réel.
Mais comment on fait un long métrage tout seul ?
Avec du temps.
Combien de temps ?
Avec du temps, de la patience et puis des anges gardiens aussi. Voilà. Alors combien de temps ? J'ai dû travailler sur l'animation, je pense 1 an et demi, et puis une autre année pour faire la mise en couleur, le son, etc. Et sur cette partie-là, d'ailleurs, je n'étais pas tout seul.
Quand on compare Dragon's Tree et vous, d'un côté et de l'autre du spectre, c'est comme si on disait, on parlait de Alain Cavalli, de Steven Spielberg, et pourtant ils font tous les deux du cinéma.
Ils font tous les deux du cinéma, ils font tous les deux du cinéma de qualité, et je suis sûr que s'ils se rencontraient, peut-être qu'ils se connaissent d'ailleurs, et en tout cas je pense que les films de l'un sont connus par l'autre.
Vous auriez envie d'avoir les moyens de Spielberg comparativement ou absolument pas ?
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne les ai pas. Donc quand je les je me poserai la question. Non, mais c'est vrai que pour un film comme La jeune fille sans main, j'étais extrêmement pauvre et donc je me suis senti extrêmement libre. Et cette liberté-là, elle était précieuse. Donc je voudrais pouvoir conserver cette liberté-là. Si je peux avoir la même liberté avec un budget phénoménal, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Tout dépend de ce que je raconte aussi. Raconte pas les mêmes choses avec des moyens différents.
Vous avez accompli ici une performance, c'est un drôle de mot, pendant un concert de Dominique A, ici à Annecy. Dominique A, dont vous avez illustré 4 clips.
Le dernier album.
Avant de parler de vous deux, on va passer ce mix réalisé par notre réalisatrice Sonia Leglen. On a mis un peu de Jeune fille sans main avec Dominique A.
Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. À quoi ressemble la sortie? Aujourd'hui n'existe plus.
Es-tu là pour mourir?
Au contraire, je ne désire rien d'autre que de vivre.
N'aie pas peur, je ne veux que ton bien. Tu es telle que je t'ai toujours rêvé. Toi qui parles à la rivière, sois la bienvenue.
Oh, comme ça cognait. Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt.
Quelle belle chose de voir un homme au travail.
1000 sentiers nous parcouraient, 1000 odyssées à notre porte. Les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait.
Coupe les mains.
Nous avions toute l'attitude et toute la vie.
Coupe.
Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe.
Je ne désire rien d'autre que de vivre.
Depuis.
Ah ! À bientôt.
Sébastien Lodenbach.
Cadeau.
Pardon ?
Merci du cadeau.
Non. Comment on collabore avec Dominique A? Vous, je suppose que vous écoutez les chansons avant. Comment vous concevez ça?
C'est lui qui est venu vous voir.
Alors, Alors, il faut savoir que Dominique A, d'abord, je l'écoute depuis très très longtemps, et puis j'ai fait un film qui est l'adaptation d'une de ses chansons il y a une dizaine d'années. Je dois dire d'ailleurs que je suis extrêmement ému d'entendre ce montage que vous avez fait, parce que le garçon qui a fait la musique de La Jeune Fille Sans Main, Olivier Mélano, est quelqu'un qui a travaillé avec Dominique, qui a été son guitariste. C'est un type extraordinaire, Olivier. Et j'ai fait ce court-métrage qui était à Cannes, donc il y a une dizaine d'années, qui est adapté de la chanson L'Horizon, sur laquelle Olivier jouait et faisait les concerts avec Dominique. Et donc là, de les entendre tous les deux réunis, c'est assez émouvant. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme je disais tout à l'heure, il faut des anges gardiens. Un de mes anges gardiens, c'est ma compagne, qui a été pensionnaire à la Villa Médicis il y a quelques années. Et donc je l'ai suivi, c'est grâce à elle que j'ai pu avoir le temps et l'espace pour commencer La Jeune Fille Sans Main. Et il se trouve que Dominique est venu passer quelques jours pour écrire, et donc je suis allé le voir, je lui ai dit voilà, c'est moi qui ai fait ce court-métrage, et il est extrêmement sympathique, et donc on est allé boire un coup, et c'était une très jolie soirée. Et il est venu me voir ensuite travailler sur La Jeune Fille, et je lui ai dit que ça m'intéresserait de faire des vidéos musicales, des clips vidéo, et il m'a répondu que lui aussi ça l'intéresserait, mais que ça coûtait très cher. Et là je lui dis on peut peut-être négocier, enfin voilà. Et donc il m'a rappelé un an et demi après, et il m'a passé donc cette commande, mais en même temps c'était presque une carte blanche de 4 clips qui forment une sorte d'ensemble, une sorte de voyage comme ça, d'images et de musique. Et ça a été une collaboration. Voilà, là, je me suis senti très libre. Et c'était formidable, exceptionnel.
On peut dire que vous êtes un peintre de l'animation.
Ah bon? C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le mouvement.
Oui.
C'est le mouvement. Et j'ai une manière de faire de l'animation qui est assez économique et qui va assez vite, parce que je m'intéresse au mouvement pur, au-delà même de chaque image qui compose ce mouvement. Alors, très souvent, pour les personnes qui ont vu La Jeune Fille Sans Main, c'est très visible dans le film. Il y a des moments où les personnages disparaissent. Oui. Alors, ça, il y a une grande vertu économique, c'est que ne pas finir un dessin, ça prend beaucoup moins de temps que de le terminer. Mais l'autre chose, c'est que ça crée une écriture particulière, et qui est une écriture du mouvement. Et en fait, on se rend compte que l'œil et le cerveau du spectateur reconstituent très facilement les formes.
Marc Aguès, vous qui êtes spécialiste donc de cette animation adulte, c'est quoi sa place à lui dans l'animation? Sébastien Lodenbach.
Je pense que déjà, il fait partie de ces films justement avec une ligne qui est pas finie, un trait qui est pas fini, et c'est un genre artistique. Quand c'est pas trop réaliste, c'est très intéressant aussi pour le spectateur. Ça laisse de la place au spectateur pour justement projeter un petit peu, reconstituer, s'approprier en fait le film. Et moi j'ai eu le sentiment en plus de ça, par exemple les Hirondelles de Kaboul qui a été présenté à Annecy cette année, est aussi un film où les assez abstrait dans le dessin, et je trouve ça très intéressant par rapport à l'hyperréalisme. Et en plus dans La Jeune Fille Sans Main, je trouvais que justement cette épure renforçait aussi la force du son, la force des dialogues. Enfin, je trouvais que les dialogues étaient encore plus naturels. Peut-être parce que justement, on les entendait mieux qu'avec un graphisme trop impactant, et la musique aussi qui était parfaite. Donc voilà, moi je suis très sensible à ce genre d'animation artistique épurée, plutôt qu'à des trucs ultra ultra réalistes et trop avec trop d'acting, des choses comme ça. Et donc voilà, Ernest et Célestine étaient un petit peu dans ce genre-là aussi. Le Grand Méchant Renard, voilà, c'est pas un graphisme BD, c'est pas fini, les traits sont, ça respire en fait, ça respire aussi pour le spectateur.
Sébastien Lodenbach, vous présentez aussi ici un court-métrage Vibrato. On peut dire que c'est très drôle, on dirait c'est un orgasme.
J'ai l'impression d'avoir inventé une sorte de nouveau genre, donc c'est un film d'architecture érotique. Voilà, donc c'est un hommage au Palais Garnier, raconté au travers des souvenirs de Madame Veuve Garnier, voilà, qui se souvient des doux moments qu'elle a passés dans le palais qu'a dessiné et fait construire son mari.
Vous ne dessinez pas le sexe, vous dessinez l'amour.
Je dessine le mouvement, et le mouvement, l'amour et
partie.
Le mouvement, ça va avec.
Bien sûr.
Denis Valgenwitz, vous êtes aussi un réalisateur, mais vous êtes d'abord au début assistant. On peut dire que vous avez été l'assistant de Marjane Satrapi, Denis Parono sur Persepolis, également avec Harry Folman au Congrès. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces trois-là?
Ce qui était intéressant à chaque fois avec eux, c'est que c'est vraiment des réalisateurs accomplis, en fait. Ils ont une idée générale de ce qu'ils veulent faire, et quand on est dans le détail des choses, les directions qu'on doit prendre sont très claires. Vous citez des projets, des films qui avaient des productions un peu différentes. C'était un peu plus difficile, la production du film d'Harry Folman. Mais sur la partie artistique et sur le travail, ces deux exemples que vous citez, c'était très facile pour moi.
Ah oui.
Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est très facile parce que...
Les univers sont déjà existants, faits, très importants. Ce sont des univers qui existent énormément.
Non, ça vient pas de ça. Ça vient du fait que c'est des gens qui ont une vision. C'est les gens qui ont une vision, et c'est au-delà du fait de bien connaître son histoire ou de connaître la technique. C'est, on sait où on va, en fait. Et ça nous permet, par exemple, de pouvoir chercher parfois, de pouvoir tâtonner. Parce qu'on sait qu'il y a un objectif, on sait qu'il y a une vision générale du film. Et tout devient très facile à partir du moment où on a ça. Et ils savent la partager, surtout.
Marc Haguet, c'est très rare des films comme ça, Le Congrès, Persepolis.
Tout à fait. Et donc j'imagine qu'avec ce genre de vision, c'est aussi ça évite de sortir d'un chemin, de tâtonner, etc. Et Persepolis, oui, est un bon exemple d'ailleurs d'un succès d'animation adulte français, un peu inattendu.
Oui.
De toute façon, c'est une spécificité assez française. Moi, je regarde l'animation tous horizons, et en France, on est un des rares pays à avoir des films d'animation aussi singuliers artistiquement au niveau des histoires et tout. On a beaucoup de subventions et tout qui permettent à ce genre de film d'exister. Ce qui manque, c'est un peu des studios en fait qui fidélisent, des studios qui produisent régulièrement en fait. On n'a pas de gros studios bien identifiés, bien connus. C'est sur des one shots finalement. Mais je préfère plein de one shots très divers et très singuliers à une saga en 7 ou 8 films, voilà, qui s'épuise quoi.
On va écouter un extrait de Persepolis.
Stevie Wonder,
Julio Iglesias,
Pink Floyd,
Michael Jackson,
Roger Lev, Werner Angel, Carte à jouer.
Iron Maiden.
Hé, hey, c'est combien pour ça?
100 tomans.
50.
60.
50.
60.
50.
50.
Et toi, c'est quoi cette tenue?
C'est quoi ces chaussures de punk?
Quelles chaussures de punk?
Ça, là.
Mais c'est des baskets.
Cette forme, c'est punk.
C'est parce que je fais du basket au club de mon école.
Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi.
Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson?
Ce symbole de la décadence occidentale.
Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X.
Tu te fous de moi? C'est Michael Jackson.
Baisse ton foulard, petite pute.
Allez, ça suffit. Tu viens avec nous au comité.
Pardon, madame, je ne recommencerai plus. Madame, ma mère est morte. C'est ma méchante belle-mère qui s'occupe de moi. Si je rentre pas tout de suite à la maison, elle me tuera. Elle me brûlera pour faire repasser. Elle obligera mon père à me mettre dans une orphelinat. Pitié. Pitié, madame. Pitié. Pitié.
Denis Valgenwitz, vous êtes aussi un découvreur et vous avez découvert ce cinéaste chinois qui était présent ici en ouverture, Liu Jian. Vous avez sélectionné son premier film Persing à Annecy en 2010 et ce nouveau film s'appelle Have a Nice Day. Ça, c'est un vrai film d'animation pour adultes.
Ah oui, vraiment.
Ouais.
Vraiment. D'abord, c'est un film de genre.
Ouais.
Et c'est effectivement un film qui s'encombre absolument pas de ces considérations. Il a un fort point commun avec Sébastien. C'est qu'il a réalisé lui aussi ces deux films pratiquement seul. Il fait, je pense, à peu près le même constat. Vous êtes très très proche. J'étais frappé quand tu évoquais ton travail sur La jeune fille sans main. On pourrait superposer les deux témoignages et ils varieraient très très peu l'un de l'autre.
Une petite ville du sud de la Chine, le chauffeur d'un mafieux local vole à son patron un sac rempli de billets. Tous se lancent à la poursuite de ce sac et tous veulent saisir la chance de se venger d'un quotidien très violent. C'est assez politique comme film, c'est un film de genre, mais c'est un film politique aussi.
C'est un film politique et ce film-là, comme le précédent, a aussi une dimension sociale. Pendant que tout ce scénario rocambolesque se déroule et qui devient grotesque et drôle, au final, se déroule sous nos yeux, on voit des zones de banlieue ou de périphérie de ville qui sont habitées par des gens qui sont assez désœuvrés. On voit un état d'une économie qui est assez sensiblement différent de celle qu'on peut observer de façon habituelle dans les journaux ou dans les oui, c'est différent de l'image qui nous est renvoyée habituellement.
C'est un film qu'on peut voir en Chine ?
C'est un film qu'on a pu voir en Chine très rapidement. Il y a eu une exploitation et Lin Wang, la compagne et la productrice de Liu Jian, m'a envoyé un petit mot à ce sujet il y a quelques semaines, quelques mois, en me disant bon, faisons un bilan. Nous pouvons le dire maintenant parce que l'exploitation a eu lieu, c'est relativement catastrophique.
On va écouter un morceau de la bande-annonce.
And I congratulated her on a very, very hard fought campaign.
Kenna?
我对商铺投资没兴趣，我不买房，谢谢你。
Je vous ai laissé la surprise, mais au début, la voix qu'on entend, c'est la voix de Donald Trump.
Absolument. Et régulièrement, Liu Jian, comme il travaille relativement vite malgré tout, il a cette capacité d'intégrer des éléments issus de l'actualité proche. Ici, c'est Donald Trump. Dans Piercing, on parlait il l'a fait au moment de la crise économique qui a touché la Chine à ce moment-là. Et le film parle justement de l'impact que ça a eu en termes de chômage avec des gens qui doivent revenir à la campagne, etc.
Vous avez beaucoup de casquettes parce que vous êtes aussi et surtout réalisateur et vous présentez ici ce court-métrage avec Winchlus. C'est Vincent Parrenot, c'est son nom de scène. Ça s'appelle La mort, père et fils. C'est très étonnant. C'est le fils de la mort qui ne veut pas reprendre l'affaire familiale, à savoir comptabiliser les morts quotidiennement. Il rêve, lui, de devenir ange gardien pour sauver des vies. D'où ça vient un sujet pareil ?
Oh, ça vient du cerveau malade de Vincent Parrenot et de ses bandes dessinées macabres. L'adaptation ici en film de marionnettes, en stop motion, nous a permis de changer légèrement l'angle de narration du film, sans en changer l'histoire, mais juste de donner un ton supplémentaire qui était un peu là dans la bande dessinée, mais pas très présent. C'est qu'on a ajouté vraiment un climat de tendresse dans ce monde macabre, essentiellement pour pouvoir sentir plus fortement le côté macabre du film.
On écoute un extrait. De l'ambiance, hein. Denis Valganwitz, vous produisez, vous aidez d'autres réalisateurs. Est-ce que l'animation est un milieu généreux ?
Ah, très, très. Oui, vraiment. Dans le sens où, rien que dans le champ artistique, oui, il y a une grande générosité. On le disait tout à l'heure, c'est quand même des producteurs, des artistes qui n'ont aucun problème à venir présenter un travail en cours, par exemple, à partager des informations, à échanger. Et Annecy, c'est une véritable plateforme ici, c'est... On a même parfois même du mal à aller voir les films tellement on parle avec tout le monde tout le temps. Oui.
Sébastien Lodenbach, quand un petit jeune ou une petite jeune vient vous voir, vous l'aidez ?
Non, je leur dis allez voir Denis Valganwitz.
Allez vous faire foutre.
Il se trouve que ça m'arrive parce que je suis aussi enseignant, donc j'ai beaucoup d'élèves et d'anciens élèves parce que je commence à être un vieux prof maintenant. Et de fait, c'est vrai que pour quelqu'un qui démarre, c'est pas forcément évident. C'est vrai que c'est un milieu plutôt généreux, plutôt ouvert et accueillant, et qui donne sa place aux jeunes, puisqu'on a la possibilité, un jeune qui démarre a la possibilité de déposer un projet de premier film, de premier court-métrage au CNC ou dans des régions, et de rencontrer des producteurs. Tout le monde est très abordable, en fait. Et voilà, j'aime bien cette ambiance-là. Donc oui, j'essaie de les aider dans la mesure du possible.
Dans la mesure aussi où c'est difficile de transmettre quand on a un univers aussi singulier et particulier que le vôtre.
Oh, ça, je ne sais pas. Je me sens pas tellement dans la transmission, en fait. Mmh. Je me sens plutôt dans l'accompagnement. Mmh. C'est là, en tout cas, où je me sens le plus à ma place.
Marc Hagues, responsable de Katsuka, site internet créé en 2000 et consacré au cinéma d'animation adulte, et également chargé de com au studio Bobby Pills, spécialisé aussi dans l'animation...
Jeune adulte,
c'est quoi un jeune adulte ?
Alors jeune adulte, c'est
assez... Vieil adulte, on voit.
En fait, je pense que... Bon, c'est vrai qu'on a longtemps parlé de cible pour la télévision. Les jeunes adultes, ils regardent plus trop la télévision. Donc jeune adulte, ça va... Pour moi, ça cible plutôt des gens qui ont un certain mode de consommation. En l'occurrence, au studio où on travaille, on cible les jeunes qui regardent un peu n'importe quand, sur leur tablette, sur leur smartphone, des formats courts du coup, on produit essentiellement du format court, mais faudrait pas non plus limiter ça à 15-25, 15-30. Je pense que c'est aussi une génération qui a grandi avec des œuvres de plus en plus métissées, Je pense que c'est aussi la générosité de l'animation, c'est aussi que tous les genres, les influences se mélangent de plus en plus. Il y a des gens qui sont influencés par des séries qui sont elles-mêmes influencées par différents continents. On est plus sur une école, je sais pas, moi, américaine ou même les Japonais hein, sont s'ouvrent de plus en plus à des collaborations. La French Touch, enfin les Français qui travaillent au Japon sont de plus en plus nombreux. Donc voilà, le jeune adulte, ouais, c'est les ados et jusqu'à 30 ans. Mais honnêtement, l'animation, enfin, permet de faire passer tellement de sentiments. Enfin, et il y a beaucoup de films muets. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est la puissance de l'animation sans besoin de dialogue. Hein, le nombre de films qui sont muets. Il y a même des longs métrages d'animation muets, Le Garçon et le Monde, qui est sorti il y a quelques années.
Enfin, brésilien.
On finit par oublier qu'il y a plus de dialogue tellement ça passe bien. Et puis, on va pas refaire toutes les possibilités, les avantages de l'animation, de pouvoir passer d'un monde à l'autre en quelques dessins.
Est-ce qu'on peut être plus trash aussi?
On peut faire du trash. Nous, au studio Bobby Pills, on a des séries plutôt agressives, mais c'est pas du tout notre.
C'est quoi une série agressive, par exemple?
Agressive, ça va être un graphisme un petit peu acéré, avoir de la violence, mais c'est pas ce qu'on cherche forcément. Nous, on cherche plutôt un ton, on cherche plutôt une efficacité, parce qu'on fait des séries genre de 10 épisodes de 5 à 10 minutes par épisode, et c'est du feuilletonnant. Alors, c'est un truc aussi, bon, là, on est sur la série,
oui.
Donc on va pas trop s'éloigner.
Non.
Mais en tout cas, sur le long métrage, il y a des longs métrages jeunes adultes aussi qui sont sortis en France. Ces dernières années, il y a le film de Lascar, il y a Moutafoukas qui a été présenté l'an dernier à Annecy. Et c'est ces films-là, d'ailleurs, bizarrement, autant en série, il y a un vrai public jeune adulte qui est là et qui aime la VO, qui aime l'anglais, qui aime les versions originales, etc. Autant le long métrage, c'est ces films-là qui ont le plus de mal, je trouve, à trouver leur public parce que c'est ni pour les jeunes, ni pour les adultes. Et c'est une tranche qui, au cinéma, n'est pas encore bien identifiée par les réseaux de salles. Et donc, ils ne savent pas trop, parce que en général, les films jeunesse, on les met à certaines heures dans les cinémas, à certains jours, c'est dans les cycles scolaires et compagnie. Les films adultes, c'est les films adultes, Persepolis, tout ça, pas de souci. Et puis, ceux qui sont pour les 20, 15, 20 ans, là, il y a... Et donc, il n'y en a pas tant que ça, en fait, en France, en long métrage du jeune adulte, c'est plutôt en série. Donc, voilà.
Sébastien Leudenbach, vous pensez à votre public quand vous faites La jeune fille sans main, par exemple?
Ah oui, enfin, je pense pas au public, je pense aux spectateurs. Je pense pas au public en termes de cible. C'est vrai que très souvent, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais quand on a un projet d'animation qui n'est pas un court-métrage, mais qui est un long ou une série, on va assez vite avoir cette question-là, mais à qui ça s'adresse? Alors, La jeune fille sans main, c'est très intéressant. Le distributeur français l'a sorti pour tout public à partir de 8 ans. Quand j'ai raconté ça au distributeur américain, il m'a regardé avec des yeux horrifiés en disant « Mais vous êtes les Français, vous êtes vraiment complètement pervers et fous. »
On redit que c'est un conte de Grimm. Hein,
C'est l'adaptation d'un conte de Grimm et qui n'est pas édulcoré. Donc, c'est vrai qu'il a une certaine cruauté. C'est pas un film violent. Puis, par ailleurs, ça se termine bien et les images sont plutôt douces, je crois.
Mais ça raconte des choses très violentes. Quand même.
Ça raconte des choses violentes, mais bon, la vie est violente. Mais elle peut être douce et aussi parfois. Donc voilà, je n'ai pas pensé au public en termes de cible. Je me suis pas dit je vais faire un film pour telle tranche d'âge. Voilà. Et de fait, il y a des enfants de 5 ans qui ont vu La jeune fille sans main, qui n'ont pas été traumatisés et tout s'est très bien passé.
Denis Valgenwitz, avec votre court métrage, donc La mort père et fils, c'est un sujet très fort. D'abord, ça a beaucoup plus de mal à passer en France, hein, des films comme ça, non?
Oui.
C'est des sujets un petit peu tabous, plus qu'en Amérique du Sud, par exemple.
Oui, absolument. On l'a vu lors de la sélection du film dans le cadre de My French Film Festival, qui est un festival en ligne qui est vu dans le monde entier. Effectivement, on a eu beaucoup de retours très positifs d'Amérique du Sud, de plusieurs pays d'Amérique du Sud.
Et pourtant, il est très éducatif, ce film.
C'est ce que m'a dit une journaliste russe. Elle m'a dit, après l'avoir vu, j'ai pu le montrer à mes enfants.
Oui, exactement.
J'ai trouvé un moyen, enfin, de pouvoir leur parler de la mort, parce qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Mais alors, du coup, nous, on se dit, il y a un marché.
Pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut le voir, ce film? Hein, comment on peut le voir?
Actuellement, on peut le voir essentiellement dans les festivals. C'est vrai que la couverture dont il a bénéficié lors du dispositif de My French Film Festival, ça a permis de le voir. Et puis Canal+ continue à le diffuser puisqu'il est coproducteur du film. Donc il va continuer à le diffuser.
Marc Agues, je voulais vous signaler cette information. 7 films animés agréés par le CNC en 2018. Excepté « J'ai perdu mon corps » d'un certain Jérémy Clapin, tous s'adressent à un public enfant ou familial.
Oui, alors le truc, c'est que on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de longs métrages d'animation adultes qui sortent en France. On en avait même une douzaine. Je me rappelle au moment de la sortie d'Adama, Un monde truqué et tout, il y avait eu 12 films en moins d'un an, dont 6 ou 7 qui étaient sortis en moins de 2 mois. Mais en général, les box-office, au final, ça marche pas très bien. Il y a très très peu de films qui performent, en fait. Donc, et puis il y a la concurrence américaine. Il y a Ma vie de courgette qui a été un peu une exception, même s'il est plutôt jeunesse, mais il est quand même, c'est un film d'auteur. Et finalement, les films qui ont vraiment performé en France ces dernières années, c'est Ballerina. On fait même plus attention au box-office, mais il y a quand même des films 3D ou des films familiaux français qui ont très bien marché, contrairement aux films adultes. Donc j'imagine qu'il y a marché à prendre.
Mais il y a un public quand même qui est plus large en moyenne qu'un film normal même.
Pour un film
d'animation jeunesse, pour la bonne et simple raison qu'il y a un adulte avec un enfant en général.
Puis c'est au moment des fêtes. Enfin, les sorties c'est toujours au moment des fêtes. Donc des vacances, donc les parents vont voir. Il y a un film d'animation familial, ils y vont, que ce soit américain ou français. Ce que je regrette, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une attente d'un public en France, un grand public pour l'animation adulte. C'est-à-dire qu'on a souvent des très bonnes surprises comme Persepolis, Ma vie de courgette, ou même Kirikou pour la jeunesse. Mais derrière, il n'y a pas quelque chose qui se met en route. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de studio spécialisé, à part Folimage qui réalise depuis très longtemps, mais une fois tous les 7 ans un long métrage. Voilà, c'est toujours des productions, des studios qui se montent le temps d'une prod, et puis après tout le monde repart, c'est des intermittents. Micros a failli essayer de monter quelque chose de régulier avec Astérix, le Astérix en 3D, mais finalement ils ont fait un film et après ils ont arrêté, et le deuxième va sortir finalement 5 ans après, là, à Noël. Et le seul studio qui aurait pu peut-être faire quelque chose de familial, grand public, pas forcément jeunesse, c'est MacGuff. Et MacGuff s'est fait mettre le grappin par Universal. C'est-à-dire que faut savoir que Les Mignons, Moi Moche et Méchant, tout ça s'est fait en France, par un studio, un des meilleurs studios 3D français, mais ils se sont fait acheter par Universal, ils ne doivent travailler maintenant que pour Universal. Et donc tous les talents qui sont là-bas, c'est pour des scripts américains et évidemment des productions à destination d'un grand public mondial. Voilà, donc oui, ça m'étonne pas qu'il y ait... Mais grâce au CNC et tout, je pense qu'on aura toujours assez régulièrement des productions one-shot de films d'animation adulte.
Notre exception culturelle.
Voilà, voilà.
Question à deux réalisateurs pour terminer. Denis Wagenwitz et Sébastien Lodenbach. Que représente Annecy dans vos vies d'artistes?
Dans ma vie d'artiste...
Parce que c'était important.
Alors, bon, d'abord, c'est un festival que je connais depuis très longtemps. D'ailleurs, je pense que Denis pourra répondre la même chose. C'est un festival dans lequel je suis allé en tant qu'étudiant dès 94 ou 95 et pratiquement tous les ans depuis. C'est vrai que c'est un endroit où on peut voir un concentré de l'animation mondiale sous toutes ses formes. Et ce côté toutes ses formes, c'est assez singulier. Je crois que je connais pas beaucoup d'autres festivals qui combinent à la fois des films de commande comme des clips, des courts-métrages expérimentaux, des longs métrages type Dragon, et puis des séries télé, et puis de la VR, et puis voilà. Et ça, c'est assez précieux. C'est devenu un festival très gros. On peut pas voir tout, mais par contre, on peut voir vraiment beaucoup de choses très différentes.
Denis Wagenwitz.
Oui, effectivement, j'ai à peu près les mêmes arguments. J'ajouterais que c'est un festival aujourd'hui qui est très bien équilibré entre son marché et le festival lui-même. Il y a quelque chose qui est très équilibré entre les deux. Et au final, c'est aussi un festival par rapport à la difficulté dont on a parlé tout à l'heure pour montrer les films. C'est un festival où on a un temps pour montrer un film comme Have a Nice Day, et avoir une salle pleine et une projection de qualité avec des retours extraordinairement positifs sur le film. Et c'est important pour nous aussi.
Alors, c'est pas parce que nous sommes en direct de Annecy. D'ailleurs, j'aimerais bien entendre Annecy en direct.
Ça va, Annecy?
Pour penser au reste de la France et aux nouvelles sorties, Laurent, et on va commencer en quelques minutes, 3 jours à Quiberon. Émilie Attef a fictionné un petit épisode dans la vie de Romy Schneider à l'occasion d'une interview au magazine allemand Stern pendant sa cure. Une rencontre où elle livre ses souffrances de mère et d'actrice, et la ressemblance de Barry Bomer avec Romy Schneider est absolument troublante.
Oui, c'est vrai. En même temps, c'est un petit peu curieux parce que ce film accumule a priori pas mal de bonnes qualités pour un biopic, c'est-à-dire qu'il se concentre, vous le disiez, sur un épisode. Son actrice principale ressemble tellement à Romy Schneider qu'elle n'a absolument pas besoin de passer passer par l'atelier Musée Grévin pour être transfiguré. Donc tout ça, ce sont des bons arguments. Et en même temps, le film n'arrive pas, en tout cas à mon sens, à réellement peut-être incarner ce qu'il aurait voulu être, c'est-à-dire le portrait d'une immense actrice dans son déclin. De ce point de vue-là, il me semble que le film en reste un peu trop à la surface de cet entretien, lequel n'était pas très intéressant.
Trois jours à Quiberon, ça s'appelle.
Oui.
Pororoca, pas un jour ne passe, de Constantin Popescu, qui est roumain. Cristina et Tudor Ionescu forment une famille heureuse avec leurs deux enfants, Maria et Eli. Ils ont la trentaine, vivent dans un bel appartement. Un dimanche matin, alors que Tudor se trouve avec les enfants au parc, la petite Maria disparaît.
Mais oui, c'est ce point de départ qui ressemblerait à un film japonais ou un film... Enfin bref, c'est un sujet absolument et radicalement universel. C'est ce qui fait en général d'ailleurs la force du cinéma roumain et dans sa nouvelle composante, dans ses nouvelles vagues, c'est de prendre des situations très universelles, très simples, très basiques, et puis de les pousser jusqu'au bout. Et là, c'est ce que fait le film. Je m'interdirais de raconter la dernière partie du film où effectivement le père devient tellement autre chose que ce qu'il est que c'en est abyssal, et c'est un film qui sourd l'angoisse du début jusqu'à la fin de façon sidérante.
20 secondes pour Madame Fang de Wang Bing. C'est un documentaire sur une veuve Alzheimer.
Oui, c'est un court-métrage de Wang Bing puisqu'il dure 1h20. En général, les films de Wang Bing sont à 10 heures. Donc on fera très court pour en parler et dire qu'il faut impérativement aller voir ce très beau film sur la vie et la mort.
Merci beaucoup à notre public d'Annecy. Merci vraiment.
Merci à vous.
Nous étions en direct du 42e Festival d'Animation. Merci Marc Agues, merci Denis Wagenvis et merci Sébastien Lodenbach. Générique de fin pour la première fois avec le doux accent québécois, celui de Marcel Jean. Premier générique aussi signé par un docteur honoris causa.
C'est vrai.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Sonia Le Glen. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Marcel Jean, j'y étais.
Et merci à Christine Masson et Laurent Delmas. Une émission On aura tout vu que vous pouvez réécouter ou podcaster sur notre site www.franceinter.fr à la page de l'émission On aura tout vu, à suivre sur les épaules de Darwin avec Jean-Claude Amezen. Mais avant ça, on s'offre un super Gainsbar grâce à MC Solar.